grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle et profane des Grecs, charis humine, le bonheur, devenu la grâce, soit avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom alerem, la paix avec vous. Par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui sont considérés dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et en commençant notre culte par cette expression de l'apôtre, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament, celui du bonheur de la grâce du Second Testament. Mais aussi, signifier que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent dans la sphère de la religion, comme ceux qui se trouvent à l'extérieur. Que la grâce et la paix soient donc avec vous tous, amis du foyer de l'âme, amis de l'église voisine Notre-Dame d'Espérance, amis de la paroisse de Béthanie, ou venus d'ailleurs, vous êtes ici chez vous. Recueillons-nous ensemble dans la prière. Notre Dieu, nous t'invoquons. Toi, Dieu qui vient, Dieu qui appelle, Dieu vivant qui se met en quête de l'humain et le vivifie. Car tu es le chemin, bien plus que le but, la marche plus que l'horizon, l'eau et le pain plus que la satiété. Nous t'invoquons, toi qui nous surprends dans nos habitudes, qui nous reprend dans nos déroutes, qui nous trouve dans nos égarements. Que dans ce temps de culte, nous puissions comprendre, par ton souffle, par ta parole, comment voyager notre vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, comme toutes celles et ceux qui ont encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier. Un culte préparé avec la commission Église verte du foyer de l'âme parce que nous sommes aujourd'hui dans le temps de la création. Alors, ce n'est pas un temps liturgique, c'est un temps proposé, un petit peu plus d'un mois, proposé par plusieurs églises comme un moment particulier au cours duquel réfléchir et partager autour de cette notion de la création, pour vivifier la vie des communautés et leur engagement dans le monde. C'est aujourd'hui le dernier dimanche de ce temps qui avait commencé début septembre. Et c'est pourquoi nous avons la joie d'accueillir parmi nous un certain nombre d'amis de Notre-Dame d'Espérance, paroisse voisine, paroisse sœur, avec laquelle les échanges en ce domaine, mais dans d'autres aussi, sont régulier, chaleureux, fraternel, et nous nous en réjouissons, nous en rendons grâce. C'est aussi pour cela qu'est revenue Véronique, pour accompagner Vanessa au violon et nous donner à méditer d'une autre manière que celle des paroles ou que celle de l'orgue, d'une autre manière, celle des cordes et des violons, sur ce thème particulier aujourd'hui. C'est aussi un culte différent en ce qu'il n'aura pas le déroulement habituel. Vous avez trouvé dans les cantiques une feuille, une petite feuille sur laquelle est inscrit donc ce déroulement un peu extraordinaire, ainsi que les références des textes bibliques, les quatre textes bibliques qui accompagneront, qui baliseront notre cheminement ce matin, et celui des pièces musicales qui l'accompagneront également. Mais pour répondre à la grâce, à la paix donnée, eh bien, c'est le temps de la louange, le temps de dire merci, et pour que cette louange soit pleine, je vous invite à vous lever. C'est Micheline qui va nous conduire dans ce temps de louange.
Éternel, merci pour l'harmonie du monde, pour cette paix à l'horizon bien au-delà de tout espoir qui nous précède et nous attend, pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin. Merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, tu ne les oublies pas, mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Merci, car tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires à toi le monde. Merci, car tu es la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Merci, car tu es l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Amen.
Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4. Ô, que c'est chose belle de te louer, Seigneur. Le psaume 92. Prenez place, asseyez-vous. Il y a un thème différent chaque année. Pour le temps de la création, celui de cette année, c'est une maison pour tout le monde. Renouvellement de l'oikos, c'est-à-dire la maison en grec, de Dieu. Et c'est donc selon ce thème, selon ce titre, que nous vous invitons à suivre un parcours de méditation avec quatre textes bibliques, deux de la Genèse et deux du livre de l'Apocalypse, le début et la fin des Écritures, et après chaque lecture, un temps de méditation et de musique ou de chant nous fera comme cela avancer dans le culte. Pour commencer ce parcours, donc, une première lecture dans le livre de la Genèse, et c'est Pierre-Charles qui va faire les lectures du livre de la Genèse.
Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3a. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos informe. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit :
Au commencement, une maison est inscrite. Elle est inscrite dans le texte hébreu, dans ce mot qui est traduit par « au commencement », « bereshit » en hébreu. Un mot dont la première lettre, dans l'alphabet hébreu, est un « beit ». C'est ainsi que cette lettre est nommée. Mais « beit », le nom de la lettre, c'est aussi un mot qui signifie « maison », comme dans « Bethléem », la maison du pain. En hébreu, « Beth » est une lettre qui a à peu près la forme d'un cube arrondi, avec une petite corne dans l'angle inférieur droit, et dont l'un des côtés, le côté vertical gauche, est ouvert. Vous arrivez à la représenter un peu ? Et comme l'hébreu s'écrit de droite à gauche, la lettre est ouverte du côté de la suite du mot, du côté de la suite du texte. Le commencement, l'ouverture du récit de la Genèse est une lettre ouverte sur tout le chapitre, mais aussi sur tout le livre de la Genèse, sur toutes les écritures de la Bible hébraïque et de nos Bibles, Nouveau Testament compris. C'est comme si ce qui est au programme des Écritures est une maison, bête. Vous le savez, en français, et c'est d'ailleurs la même chose en hébreu, le mot maison ne désigne pas seulement un bâtiment, une construction. La maison, c'est aussi la maisonnée, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui font partie de la maison. Des personnes qui ont chacune une place dans cette maison, des personnes reliées entre elles par différentes relations. Les habitants de la maison, les membres de la maisonnée, ne sont pas indépendants les uns des autres, mais ils sont inscrits dans une dynamique relationnelle. Et puis la maison, c'est aussi la succession des générations dans une famille, alors une large famille. Vous savez, c'est ainsi que Joseph, l'époux de Marie, est dit, étant faisant partie de la maison de David. La maison ne signifie pas seulement une stabilité, mais aussi une dynamique vers l'avenir, une dynamique donc de changement et d'évolution dans le temps. Alors voici donc, dès le commencement des Écritures, au commencement du récit, la maison, la maisonnée. Ce qui édifie cette maison, cette maisonnée, c'est que Dieu parle. Et voici encore de quoi conforter cette notion de relation qui constitue véritablement une maisonnée. D'autant que cette parole, la parole c'est un événement de relation, de dialogue, Cette parole, elle sépare, elle distingue. Je vous laisse lire la suite du chapitre. On n'a pas tout lu cette fois-ci. Et la séparation, la distinction, c'est indispensable pour des relations. Si tout est confus et indistinct, aucune relation n'est possible. D'ailleurs, c'est écrit dans le premier verset, « Sans la parole divine, la terre est chaos, informe. » Chaos pour traduire un mot hébreu que nous connaissons quand même un peu, le « tohu-bohu ». Mais en français, « tohu-bohu » est souvent relatif au domaine sonore. Chaos informe, c'est ainsi que j'ai proposé pour cette lecture de traduire. Informe, beaucoup de traductions écrivent « vide ». Mais ce n'est pas un vide sans rien. C'est un vide sans sens, où l'on ne distingue pas les éléments, où l'on ne reconnaît pas d'orientation. Il se peut bien, chers amis, que dans un grand chaos, on puisse s'aménager un petit coin un peu plus rangé, un abri un peu plus en ordre. Mais dès que l'on sort au dehors, eh bien c'est toujours le chaos. Ce n'est pas que les éléments qui composent le chaos soient mauvais, c'est que c'est l'ensemble qui ne fonctionne pas dans des relations avec des articulations qui permettent une orientation, qui découvrent un sens, qui favorisent un mouvement selon ce sens. Alors même dans le chaos auquel nous sommes confrontés dans le monde, il ne s'agit pas de tout jeter ni de tout condamner, mais de distinguer, d'articuler, de s'articuler soi-même en relation avec les vivants, avec les autres éléments, par la grâce de la parole qui donne sens, qui met en relation, qui appelle. Et c'est ce processus que le premier mot, la première lettre de la Genèse désigne avec le terme de « maison », qui donne à l'habitation du monde la couleur de l'hospitalité et celle de la gratitude qui lui répond. La parole divine appelle. Parole de surgissement de vie, car parole de surgissement de possibilités nouvelles que le chaos ne permettait pas. La parole, ce n'est pas un son, ni un mot, ni une suite de mots. C'est l'affirmation d'une présence devant laquelle on peut se tenir, une présence fiable et fidèle. Vous savez, comme lorsque l'on dit à quelqu'un « je te donne ma parole », c'est mettre dans la parole, en fait, le poids, la densité de soi-même pour manifester que la confiance est possible tout en laissant l'autre libre. La création, c'est ce qui arrive en réponse à la parole divine qui appelle à l'existence et à la relation dans une habitation partagée et commune. La parole qui appelle encore et toujours à de nouvelles possibilités. La parole qui appelle à la vie vivante et la parole qui continue d'appeler.
Thank you.
la Genèse, chapitre 1, verset 26, à chapitre 2, verset 3. Dieu dit « Faisons l'humain à notre image, comme notre ressemblance pour qu'il gouverne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Gouvernez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le septième jour, Dieu cessa tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le consacra. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant.
L'humain à l'image de Dieu, comme sa ressemblance. Eh bien, le fait d'être né n'y suffit pas. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel, au sens de la nature dont nous sommes un des éléments au fil d'une très longue évolution. Mais c'est que justement, il n'est pas question de nature dans la création, parce que la création relève d'un processus de parole. Nous ne sommes pas destinés à n'être que le produit de notre biologie, de notre physiologie, ni même de notre esprit, de notre nature d'humain. L'appel à être humain en image de Dieu, comme sa ressemblance, c'est un appel à devenir en écoute et en réponse, c'est-à-dire aussi en confiance et en liberté. Soumettre la terre et la gouverner prennent sens dans cet appel et non dans leurs usages mondains dont nous ne connaissons que trop les excès, les dérives. Nous pouvons y entendre également une fonction de régisseur ou d'intendant. Jean Calvin écrivait « lieutenant, tenant lieu de, lieutenant de Dieu », à condition bien sûr de ne pas se prendre pour lui, ce qui conduit toujours à la catastrophe. Nous trouvons dans cet appel, dans la relation qu'il implique entre ceux qui l'entendent et celui qui l'émet, une raison de nous tenir à distance de tous les discours qui cherchent soit à diviniser la terre d'une manière ou d'une autre, soit aussi à juger les humains illégitimes sur cette planète ou fondamentalement nocifs pour la terre. Le récit de Genèse représente un poème de paroles pour la vie vivante, paroles de bénédiction, paroles de célébration et d'émerveillement. C'est bon, c'est très bon. Paroles du Dieu qui n'use dans cette création d'aucune violence, ni d'aucune manipulation, ni d'aucune destruction. La parole qui appelle à le représenter nous précède. Mais elle est aussi encore devant nous, car elle attend une réponse au fil du temps, au fil des circonstances, des évolutions, des progrès, des échecs, car la création, c'est un processus permanent, toujours repris et dynamique. Alors, gouverneur, intendant ou lieutenant, en tant qu'hôte de la maison de Dieu, Nous sommes appelés à nous souvenir de tous ceux qui en sont également les hôtes, puisque l'appel est celui de la veille au bien-vivre de tous. Et c'est une responsabilité pour une créativité renouvelée dans chaque temps du présent, y compris des temps dominés par l'incertitude. Un appel à une créativité renouvelée et appuyée non sur une culpabilité, mais sur une bénédiction fondatrice d'un nouveau rapport au monde, fondée sur la confiance qui nous est faite de devenir et d'être image de Dieu, car cela nous est possible. Alors le motif du repos de Dieu le septième jour, le sabbat qui rompt toute notion de production, de rentabilité, permet de comprendre la maison comme un espace de grâce à habiter dans la reconnaissance, dans la gratitude de la vie vivante qui n'est conduite ni par la culpabilité ni par la peur. Dans la maison monde, c'est à nous de poursuivre l'œuvre divine, œuvre non de conservation, mais œuvre de création, distinction et séparation, relation et articulation, parole fiable et bénédiction. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 256 « Célébrons Dieu notre Père ». Prenez place.
Au livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, tout d'abord les versets 1 à 6. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. » Un peu plus loin, au verset 11 à 17. Alors, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom.
Dans ce chapitre de l'Apocalypse, il est question de l'humanité en proie à des bêtes monstrueuses au service d'un dragon tout aussi monstrueux. Les images de la vision peuvent laisser perplexes, elles peuvent faire sourire ou effrayer. Et ce sont des images qui parlent de peur. Et nous savons combien sont prégnantes les peurs contemporaines. Peurs générées par la crise climatique, par la pandémie et ses conséquences, par les injustices sociales et économiques, par les violences politiques ou religieuses. Certainement, le livre de l'Apocalypse, dont il vaudrait mieux traduire le nom Apocalypse, qui est un mot grec, par révélation, ce livre invite déjà à regarder les peurs en face, aussi effrayantes soient-elles, afin de discerner leurs ressorts. C'est ainsi que la vision de Jean de Patmos décrit un pouvoir, un monstre de pouvoir ou un pouvoir monstrueux, qui soumet les humains désemparés, effrayés, envahis par le sentiment de l'absurde. Et ce pouvoir remplace la solidarité par la compétition ou le chacun pour soi. Il remplace la dimension collective par la masse indistincte. Il remplace les articulations par la crispation des identités et la fragmentation des espaces. Il remplace l'interdépendance par l'oppression des uns sur les autres. Alors c'est l'Empire romain qui est ainsi représenté dans la vision, représenté dans sa prétention totalitaire, dans sa volonté de régir chaque domaine de l'existence avec une hiérarchie stricte, une propagande bien huilée et une force armée écrasante. Mais au-delà du 1er siècle et de l'Empire romain, l'Apocalypse est le livre qui révèle ce qui détruit l'humanité des humains, et parfois même avec leur consentement, car certains peuvent être séduits par l'ordre hiérarchique, surtout s'ils ont la possibilité d'y grimper quelques marches. Certains peuvent être séduits par la force et par les armes et par le sentiment de puissance ou de sécurité qu'elles procurent. D'autres sont aveuglés par la propagande, leur faisant croire qu'il n'y a pas d'alternative à cette idéologie dominante. Et d'autres, enfin, se sentent bien trop coupables de ne pas être en phase ou de ne pas être assez bien. Mais à tous est imposée une marque sur le front ou sur la main droite qui permet d'acheter ou de vendre. Une marque d'esclave qui conditionne la survie à une épouvantable réduction de la condition humaine à celle d'acheteur ou de vendeur. Jean de Patmos insiste sur la violence de l'Empire. Et si l'Apocalypse représente surtout des humains, eh bien, ni l'environnement, ni la terre ne peuvent être épargnés par une telle domination, un tel gouvernement, quand il n'est qu'oppression et prédation. Pour aujourd'hui, les ravages des bêtes monstrueuses, ce pouvoir sans limite, dépasse largement les seuls humains, mais il s'agit fondamentalement toujours d'un ravage de l'humanité, d'une conception déshumanisante de l'humain, que ce soit par l'hubris qui veut s'affranchir de toute limite ou par la transformation de l'humain en objet. Le monde des bêtes et du dragon, la terre habitait ce que l'Empire romain appelait l'oikoumené. Ce n'est pas une maison, c'est un terrain de chasse, un champ de bataille. Et ce que décrit le visionnaire résonne d'une étrange actualité. Mais Jean de Patmos écrit aussi qu'un tel monde, fondé sur la violence, sur l'oppression, sur la prédation, un tel monde ne peut que s'effondrer à cause de la violence dont il use et qu'il génère, à cause des ravages qu'il cause. Les bêtes monstrueuses dont la convoitise et la violence semblent sans limite, l'une avec un pouvoir d'immortalité, là, celle qui avait une tête à moitié décapitée et qui a repris vie, et puis l'autre avec un pouvoir de marchandisation de l'humain et donc de tout être vivant et de tout ce qui est, ces bêtes effrayantes s'effondrent. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Car ce n'est pas la peur qui est le ressort de l'Apocalypse. Parce qu'en vérité, et c'est la révélation de l'Apocalypse, il n'y a pas que des bêtes et des dragons. Il y a ce que ces bêtes disent qu'il n'y a pas. Il y a un agneau.
Thank you.
Apocalypse, au chapitre 21, les deux premiers versets, suivis des versets 22 à 26. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. »
Cette ville, c'est comme une très grande maison. Une vaste maisonnée rassemblant tous les peuples, et la ville, c'est bien comme la maison, le lieu de relation dont la qualité dépend de l'humanité. Mais alors, où est la nature? Et les végétaux et les animaux? Et tout ce qui reçoit l'hospitalité de la maison de Dieu dans le poème de la Genèse? Ce n'est pas un retour à la nature que décrit la vision, mais une ville nouvelle, absolument nouvelle, d'une nouveauté qui est œuvre divine à tel point qu'il n'y a plus pouvoir politique, ni pouvoir économique, ni pouvoir religieux, et plus aucune de leurs idoles, plus rien de leur sacré. Et cela grâce à l'agneau. C'est par cette image de l'agneau que Jean de Patmos désigne le Christ, ce qui fait vérité dans son existence et à partir de quoi le visionnaire interprète la réalité afin de soutenir les communautés dans leur résistance spirituelle qui fondera leur comportement et leur présence dans l'Empire. Et l'appel à la vie vivante est repris dans la vision, d'une autre manière, mais toujours pour cette humanisation de l'humain, toujours en responsabilité, en dynamique vers une juste posture d'humain, c'est-à-dire ni en domination, ni en démission, ni en désespoir, ni en frayeur, mais en confiance. Un agneau pour une autre vision du monde, une autre compréhension de l'existence, voir à partir du Christ en quelque sorte. Le Christ, cette puissance d'être en qui chacune de nos existences n'est plus qualifiée selon les critères du monde, mais par la grâce, par l'amour divin donné sans condition. Et c'est cela le salut qui est déjà donné, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats à mener, les transformations à engager, quelles que soient les épreuves à traverser, les douleurs à supporter. Et même si nous échouons dans nos entreprises, le salut est déjà donné. Et c'est pourquoi nous pouvons regarder les bêtes monstrueuses, parce qu'elles ne peuvent pas altérer l'amour qui nous fait vivre. Elles ne peuvent pas nous priver de la grâce qui nous a relevés, qui nous a déjà ressuscités. Et c'est pourquoi nous pouvons être présents dans le monde, nous tenir dans l'existence avec courage, courage d'être, selon l'expression de Paul Tillich, ce qui ne garantit pas le succès, mais ce qui nous permet de regarder l'avenir tellement incertain avec foi plus qu'avec angoisse. Voir à partir du Christ, l'agneau sacrifié aux intérêts du pouvoir et de la religion. L'agneau, symbole de faiblesse, oui, mais aussi de confiance. Et vivant malgré la mort et les puissances qui se servent de la mort ou qui la servent, mais ça revient au même. Voir à partir du Christ la puissance de la vie. voir le surgissement de la vie, voir la lumière dans les ténèbres, la création dans le chaos, nouvelle création renouvelée en grâce et en universalité, une nouvelle oikos, oikoumené, maison universelle. Une ville, c'est un lieu de vie commune et de relations. Et la ville qui descend du ciel parle de relations entre des sujets, pas des objets. Des sujets, les sujets qu'il nous est déjà donné d'être. Et c'est ainsi que nous pouvons aller, jour après jour, dans nos villes et ailleurs, sur cette terre transformée, toujours transformée, et du meilleur au pire par l'activité humaine. Nous pouvons aller faire ce que nous discernerons, faire ce que nous choisirons de faire, mais y aller avec au cœur la gratitude d'être des vivants, de vie vivante, et la capacité de mettre cette gratitude en forme, en couleur, dans nos choix et dans nos actes. Et c'est ainsi que nous pouvons faire passer de l'espérance au lieu de faire passer de l'angoisse et de la peur. Et ainsi, nous habitons la terre comme la ville descendue du ciel, comme une maison bête. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dit que habiter la terre, c'est l'héritage des doux. Amen. Je vous invite, hop là, à vous lever et à chanter au cantique 264, les strophes 1, 2, 4 et 5. 264, remplis d'amour et de reconnaissance. La confession de foi, que va dire Pierre-Charles ?
Je crois en Dieu, l'Éternel qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Dieu vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté. Il m'attend, il me parle, mystérieux visiteur, dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois, avec celles et ceux d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes, avec les foules palestiniennes et les apôtres témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. Paul de Tarse, Saint François d'Assise, Luther, Jean 23, Martin Luther King et tous les autres qui n'ont pas cru en vain. Je crois dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner le pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche, et les lutteurs, je milite. Car il vient, celui-là, qui rompt tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités, et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant dont la résurrection a nom espérance. Je crois en Dieu, celui d'aujourd'hui, d'hier et de demain.
Voici le temps des annonces avec un remerciement pour Vanessa et Véronique. Ben, merci à vous de nous avoir accompagnés ainsi. Véronique a déjà une longue histoire de musique au foyer de l'âme. Donc, c'était très beau de vous retrouver aujourd'hui toutes les deux. Merci. Alors, d'autres annonces en commençant d'abord par les réunions de la semaine prochaine. Il y aura mardi 5 à 18h30 une réunion pour la préparation de la fête de l'amitié du foyer de l'âme. La fête de l'amitié, c'est ce grand week-end de rassemblement, de partage qui aura lieu le dernier week-end du mois de novembre. Annulé l'an dernier pour les raisons que vous connaissez et dont nous espérons bien qu'il se tiendra cette année, même s'il y aura peut-être quelques ajustements à mettre en place. Donc cette réunion, mardi 5 à 18h30. À jeudi 7, de 12h30 à 13h30, ce sera le moment de la pause spirituelle dans le temple, une heure de silence, de musique, de lecture biblique et de partage et de prière, une heure de pause, voilà, pour se retrouver soi-même et avec d'autres, ce qui aide souvent à mieux se retrouver soi-même aussi. Vendredi 8, c'est le groupe Théo et Psycho qui reprendra ses réunions pour l'année 2021-2022. Un groupe qui va se réunir en présence, donc dans la salle du deuxième étage. Je n'ai pas eu d'indication comme quoi il fallait un lien Zoom pour quelqu'un qui ne pourrait venir. Ce groupe qui est ouvert a choisi de lire cette année un livre de Gérard Haddad qui s'appelle « Ismaël et Isaac ». C'est un livre récent que l'on peut trouver. Dimanche prochain, le 10, il y aura bien sûr le culte à 10h30 qui sera également animé avec les jeunes du caté, c'est-à-dire mon groupe de catéchisme. Nous avons une première rencontre hier et dimanche, le culte portera sur le texte que nous avons lu hier ensemble, qui est un texte du livre de l'Exode au chapitre 3, le début du chapitre 3 du livre de l'Exode. Alors, il y a d'autres annonces, d'autres choses à partager. D'abord, bien sûr, la collecte de produits alimentaires non périssables, de produits d'hygiène et de produits d'entretien au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, qui a lieu donc un petit peu avant et après chaque culte. Et merci à tous les bénévoles qui assurent cette permanence. Vous dire aussi que nous avons annoncé dimanche dernier le décès de Madame Maupin, la maman de Philippe et de Michel. Il y aura un service d'action de grâce pour les amis de la famille, pour la famille et ses amis, mercredi 13 octobre à 14h30, au temple de l'Oratoire. Voilà, pour... Si vous souhaitez vous y rendre pour entourer Philippe, Michel et leur famille. Vous trouverez également au fond du temple des documents concernant trois événements, deux événements qui ont lieu prochainement. Le premier, c'est une affiche sur le pilier là, qui est une affiche annonçant un concert qui va être donné à Notre-Dame d'Espérance. Alors, je crois que c'est le 17 octobre, hein, c'est ça. Un concert avec des femmes d'Afghanistan, et pour elles aussi, une rencontre musicale, une occasion de rencontrer, de croiser des cultures, des histoires. Et ce sera donc à Notre-Dame d'Espérance le samedi 17 octobre. Un dimanche, oui, c'est un dimanche. Excusez-moi, j'étais en train d'être perturbé par l'autre annonce. Donc oui, c'est ça, c'est le 17 octobre, qui est un dimanche, effectivement, à 18h. Merci Vanessa et Brigitte. L'autre chose, ce sont ces petites cartes que vous trouverez sur la table du fond qui vous annoncent la journée annuelle du christianisme social. Le christianisme social, c'est un mouvement qui n'est pas que protestant et qui s'est attaché depuis sa fondation et ses origines remontent au XIXe siècle, à développer l'aspect social du christianisme, à avoir une parole d'engagement, une parole d'évaluation, une parole de discernement concernant les questions sociales, les questions de justice, les questions économiques. Le christianisme social est un mouvement qui est organisé dans différents lieux en communes. Il y a une commune dans la région parisienne qui, depuis plusieurs années, organise tous les ans une journée sur un thème avec l'intervention de différents membres de la commune. Il y a des philosophes, des historiens, ou des personnes qui simplement se sont intéressées à un sujet, s'en sont saisies. Et il y a aussi l'intervention, la présence du professeur François Vouga, professeur de Nouveau Testament. Et cette année, le thème de la journée, c'est « Refonder la parole politique », ce qui n'est pas tout à fait hors actualité. Ce sera donc le samedi 23 octobre de 9h à 17h à l'Institut protestant de théologie Boulevard Arago. Vous avez tous les renseignements sur cette petite carte car il faut s'inscrire pour le repas. Et puis pour qu'on sache aussi combien nous serons, il y aura donc le professeur François Vouga, le pasteur Philippe Kabongo que vous connaissez, le pasteur Patrice Rollin que vous connaissez également, votre pasteur que vous connaissez, et d'autres intervenants qui participeront à cette journée d'échange. Et puis vous trouverez également sur la table du fond ce petit dépliant, qui est une action qui est proposée par l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et pour l'abolition de la peine de mort, une association œcuménique qui invite chacun à, chaque mois, envoyer une carte, qui est détachable là, une carte en soutien à une personne emprisonnée, torturée, pour des motifs parce qu'elle milite pour les droits de l'homme, parce qu'elle s'oppose à un pouvoir dictatorial ou totalitaire. Et il s'agit ce mois-ci d'écrire pour un journaliste et défenseur sahraoui des droits humains qui est emprisonné au Maroc. Il suffit de détacher la carte, de la signer, de mettre le timbre 1,50 € et de l'envoyer. C'est très facile. Et cela soutient toutes les personnes qui sont ainsi opprimées, torturées, emprisonnées, alors qu'elles ont simplement fait entendre une voix humaine. Il se trouve que Guy Orange, qui est président d'honneur de la CAT France, est intervenu ici samedi dernier lors de la conférence historique. Voilà, donc vous trouvez ce sur la table du fond. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, bien sûr. Voilà. Excuse-moi, Didier. Conseil d'administration de l'association culturelle adossée à notre paroisse. Alors voici le moment de l'offrande, et que cette offrande soit un signe à la fois de louange et de foi. Et pendant l'offrande, nous nous levons pour chanter, alors, le 222, toi Saint-Esprit, lumière qui vient. C'est que c'est le cantique qui est issu de la cantate qui devait être jouée ici cet après-midi. Malheureusement, un problème l'organisateur de la cantate ne lui a pas permis d'organiser cette cantate, ni donc le culte cantate qui devait avoir lieu cet après-midi. Mais voilà, c'est en espoir de la prochaine, du mois prochain et du culte cantate et de la cantate, eh bien, nous nous levons pour chanter le 222. Toi, Saint-Esprit, lumière qui vient. Thank you. Asseyez-vous. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession à partir d'une prière du pasteur Michel Dupoutier et c'est Lionel qui va nous y conduire.
Donne-nous aujourd'hui, ô notre Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donne-nous l'émerveillement de l'enfant qui ouvre son premier regard sur le monde. La joie de l'enfant qui découvre ta splendeur en chaque chose, en chaque être rencontré, un reflet de ta gloire. Que ton esprit agisse en nous, élargisse notre regard, agrandisse nos cœurs, renouvelle notre intelligence, afin que nous posions des paroles et des actes de confiance et de joie. Donne-nous la joie de ceux dont les pas sont nouveaux et se détachent de la peur des autres, même lorsqu'ils viennent de loin, de la peur de perdre qui empêche de partager, de la peur du changement qui empêche d'inventer. Donne-nous le bonheur de ceux dont la vie est chaque jour neuve et innocente et espérante et chaque jour pardonnée. Le bonheur de ceux qui ainsi se relient aux vivants autour d'eux, aux vivants loin d'eux, dans un esprit de justice et de paix. Donne-nous de connaître toutes choses en Christ, arbres et champs, demeures et travaux, bêtes et gens, et d'être reconnaissant au notre Dieu, en recevant ce que tu nous offres d'amour, de paix, de bonheur. Nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus le Christ a enseignées à ses disciples, en disant à voix haute ou dans le secret du cœur, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Avant la bénédiction et le dernier jeu d'orgue, qui ne sera pas suivi d'applaudissements, je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique, le psaume 67. Cette bénédiction nous vient de la verte Irlande. Que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle toujours dans ton dos, Que le soleil inonde et réchauffe ton visage. Que la pluie ruisselle dans tes champs. Que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de sa main. Amen.